Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent 7 épi à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 29 mai 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. De nouveaux drones Mohajer 6 ont été livrés à l'unité aérienne sans pilote de l'armée iranienne dans l'ouest du pays. Bachar al-Assad a été réélu pour un quatrième mandat à la présidence syrienne avec 95,1% des suffrages. Et au Mali, la Cour constitutionnelle proclame le colonel Assimi Goïta, président de transition malien. C'était les principaux titres. En voici le journal. La base d'opération de l'armée iranienne de l'Ouest a été équipée de drones de combat Mohajer 6. Le site web des médias de l'armée iranienne a rapporté vendredi 28 mai que les drones avaient été livrés à l'unité aérienne sans pilote de l'armée dans l'ouest du pays vendredi matin, après avoir parcouru avec succès une distance de 480 km. En allusion à la capacité polyvalente de cet avion combat, à la reconnaissance, à la surveillance et à la guerre électronique, le commandant de l'unité aérienne sans pilote de l'armée dans l'ouest du pays a déclaré que le drone Mohajer 6 est utilisé pour assurer la sécurité aux frontières de l'ouest du pays. Le commandant de l'unité aérienne sans pilote de l'armée dans l'ouest du pays a annoncé la capacité de ce drone à voler à toute heure du jour et de la nuit et dans toutes les conditions météorologiques et a affirmé « Cet avion sans pilote a été construit avec une portée opérationnelle de 1200 km et un plafond de vol de 18 000 pieds grâce aux efforts des experts iraniens. Le Mohajer 6 est également capable de transporter une charge utile de 4 missiles. En 2018, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, avait déclaré que ce drone pouvait voler à haute altitude et opérer sur de grandes distances. Le drone Mohajer 6, équipé de bombes intelligentes, RAEM, de différents capteurs électro-optiques et de différentes ogives, peut localiser, intercepter et détruire toute cible, a précisé le général Hatami. Le Mohajer 6 est le premier drone de la famille Mohajer qui est armé d'un système d'armes guidées et plus gros que les autres types de la famille Mohajer. Parmi les autres modèles développés par l'Iran, citons Mohajer 6, Kian ou Arash, Kaman 12, Karar et Ababil 2. Bachar al-Assad a été réélu pour une quatrième mandat à la présidence syrienne avec 95,1% des suffrages. M. Bachar al-Assad a reçu 13 540 860 voix, soit 95,1% du nombre valide de suffrages exprimés, a déclaré le président du Parlement syrien, Hamouda al-Sabah. Selon Sabara, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin sur les 18,1 millions appelés à voter, soit un taux de participation de 67,64%. Cette victoire permet à Bachar al-Assad de rester au pouvoir pendant 7 années supplémentaires. Merci à tous les Syriens pour leur grand sens du nationalisme et leur participation notable pour l'avenir des enfants et de la jeunesse syrienne. Démarrons demain notre campagne de travail pour bâtir l'espoir et construire la Syrie, est-il écrit sur la page Facebook de la campagne Assad. Pour ce scrutin, Bachar al-Assad faisait face à deux candidats, l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition, Mahmoud Marey. Ils ont remporté respectivement 1,1% et 3,3% des voix. À Damas, la capitale syrienne, des milliers de partisans de Bachar al-Assad se sont rassemblés sur la place des Omeyyades, agitant des drapeaux syriens et des portraits du président, scandant des slogans à sa gloire. L'Iran a félicité le peuple et le gouvernement en Syrie pour le succès des élections présidentielles et pour l'élection de Bachar al-Assad. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a fait noter que l'Iran respectait la décision du peuple syrien et soutenait son droit de décider de l'avenir de son pays sans aucune intervention étrangère, tout en félicitant le président Assad pour sa victoire aux élections. La Chine, la Russie et le Venezuela, eux aussi, ils ont félicité la Syrie pour l'élection de Bachar al-Assad. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les élections présidentielles en Syrie étaient un pas important vers le renforcement de sa stabilité intérieure. Le ministère a fait noter que personne n'a le droit de dicter aux Syriens la date et les conditions pour élire le président de leur État, indiquant que la victoire du président Bachar al-Assad était écrasante. De même, le président syrien a reçu ce samedi 29 mai un télégramme de félicitations de la part du président vénézuélien Nicolas Maduro. Le président vénézuélien a réaffirmé le soutien de son pays à la Syrie et sa disposition à approfondir et élargir la coopération bilatérale, contribuer à la prospérité des deux peuples et à consolider la souveraineté des deux pays. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Salih, a déclaré samedi 29 mai dans un tweet qu'une opération a visé la base aérienne de Malik Khaled à Khamis Mushait, à Sir, en Arabie Saoudite, avec deux drones chargés d'explosifs. Deux drones KSF-K2 ont ciblé la base aérienne Malik Khaled dans la région de Khamis Mushait, dans le sud de l'Arabie Saoudite, en riposte à la poursuite de l'agression saoudienne et au renforcement du blocus imposé au Yémen, a annoncé le général Salih. ASF-K2 est un drone kamikaze à longue portée. Par ailleurs, les Yéménites ont infligé de lourdes pertes aux militaires saoudiens lors des attaques contre Jizan. Vendredi soir, la chaîne de télévision yéménite Al-Masira a rapporté que les forces yéménites s'étaient emparées de dizaines de sites militaires des troupes dirigées par les Saoudiens dans la région de Jizan, dans le sud-ouest saoudien. Les opérations à grande échelle ont également infligé d'importants dégâts matériels aux mercenaires pro-Hadi, ayant également perdu un grand nombre de leurs camarades. Le rapport indique également qu'un compte-rendu complet de l'offensive, accompagné de photos et d'images, sera publié samedi après-midi. La télévision Al-Masira a diffusé des images exceptionnelles d'une bataille au corps à corps opposant les forces yéménites aux agresseurs saoudiens sur le front de Jizan. La chaîne d'information yéménite a également diffusé des images d'une opération militaire à grande échelle menée par les forces conjointes yéménites sur l'axe Jizan, où des dizaines de secteurs sont désormais sous le contrôle des forces yéménites. La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé dans un arrêt publié vendredi soir le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, suite à la démission de l'ancien président de transition Bandav. Selon l'arrêt, la Cour constitutionnelle a été saisie mercredi par une correspondance du directeur de cabinet du vice-président qui lui a transmis la lettre de démission du président Bandav, une démission qui, selon elle, a entraîné la paralysie et le dysfonctionnement des organes de transition. La Cour constitutionnelle a attribué au vice-président les attributs et prérogatives de président de transition pour conduire le processus à son terme. La Cour a justifié son arrêt par les articles 7 et 8 de la Charte de la transition qui stipule que le président de transition est secondé par un vice-président désigné dans les mêmes conditions que lui et que les deux peuvent être des personnalités civiles ou militaires. Le colonel Assimi Goïta a informé la classe politique ce vendredi de son souhait de désigner un premier ministre dans les rangs du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Les leaders de ce mouvement ont porté leur choix sur le président du comité stratégique. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la communauté internationale ont condamné l'arrestation du président Bahndaw et de son premier ministre lundi dernier après la publication de la liste du nouveau gouvernement. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tiendra dimanche à Accra, au Ghana, pour examiner la réponse à rapporter aux nouveaux coups de force perpétrés par les militaires contre le processus de transition au Mali. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Mer Rouge, le feu traque Israël. En allusion à l'avertissement du ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Salut national au Yémen à l'adresse des Émirats arabes unis au sujet de la construction d'une base militaire à l'entrée de la mer Rouge, le célèbre analyste du monde arabe Abdelbari Al-Atfan a écrit « Asarala a le doigt sur la gâchette pour tirer le premier missile sur les Émirats arabes unis ». Si la nouvelle publiée par l'Associated Press, selon laquelle les Émirats arabes unis cherchaient à établir une base aérienne sur l'île de Perim, également connue sous le nom de Mayoun, est vraie, et cela semble être vrai, car l'agence de presse a publié des images satellites de la piste et du décollage d'avions et de trois hangars sur l'île, la zone stratégique de Bab el-Mandeb sera la porte d'entrée d'une nouvelle escalade militaire qui permettra les Émirats arabes unis, en confrontation directe avec le gouvernement de Sanaa, en particulier à Sarala. A souligné le rédacteur en chef du journal Ayal Yaoum, Abdelbari Al-Atfan. Hicham Sharaf Abdullah, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Salut national à Sanaa, s'en est vivement pris aux Émirats arabes unis pour leurs actions illégales et inacceptables avec pour objectif d'imposer une politique de facto sur l'île qui contrôle l'entrée de la mer Rouge, sans manquer de les accuser de tenter d'amener des touristes israéliens sur l'île de Socotra. Selon Atfan, le passage le plus redoutable dans la déclaration de Hicham Sharaf, publiée par l'agence presse officielle yéménite, c'est là où il conseille aux Émirats arabes unis de préserver leurs terres et leurs pouvoirs à l'intérieur des frontières de leur pays, avertissant que les flammes du feu avec lesquelles ils jouent pourraient les atteindre rapidement s'ils ne mettent pas fin à leur politique, ne quittent pas le Yémen et ses îles. Les conseils et menaces du ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa signifient concrètement l'ouverture d'un front militaire contre les Émirats arabes unis qui est resté fermé tout au long des 6 dernières années de la guerre au Yémen, a affirmé Atfan, en estimant que le front risque de s'ouvrir par les attaques aux missiles à Sarala sur les aéroports et infrastructures émiraties similaires à celles lancées contre l'Arabie saoudite. Atfan de noter que les missiles et les drones de la résistance yéménite ont atteint la plupart des objectifs stratégiques dans les profondeurs saoudiennes, y compris l'épine dorsale des installations pétrolières et les ports d'exportation de pétrole. Faisant allusion aux agissements du régime sioniste pour dominer le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, Atfan a déclaré « La partie la plus préoccupée par le développement des capacités de missiles terrestres et maritimes du mouvement à Sarala » et le régime d'occupation israélien qui considère la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb comme une bouée de sauvetage maritime stratégique pour lui-même. Il s'efforce donc de le contrôler, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des alliés arabes, comme les Émirats arabes unis, avec lesquels il a signé un accord de compromis, ou le Conseil de transition yéménite, qui contrôle Aden et ne voit, aux aveux de certains de ses responsables, aucun obstacle à la normalisation des relations avec Tel Aviv. La situation dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb se détériore dans l'attente d'une étincelle pour déclencher une guerre régionale majeure, dont les Émirats arabes unis seront l'une des victimes les plus importantes, si cette crise n'est pas rapidement maîtrisée et s'ils ne renoncent pas à leur ambition de construire illégalement une base à l'entrée de la mer Rouge. Ansarallah a le doigt sur la gâchette pour tirer le premier missile. Israël, qui a été vaincu à Gaza et qui n'a pas été en mesure de protéger ses colons, ne gagnera pas non plus à Bab el-Mandeb, conclut Abdelbari Al-Atfan.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 28 mai 2021. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a mis en garde dimanche contre un risque d'apartheid en Israël si une solution à deux États n'était pas prise en considération et si le régime de Tel Aviv poursuivait en effet sa politique belliciste contre les Palestiniens. Après ces propos de Jean-Yves Le Drian, l'ambassadeur français en Israël a été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a qualifié de leçon hypocrite, de leçon morale hypocrite et mensongère les déclarations du chef de la diplomatie française. Rappelez qu'en dépit des interdictions en France ces derniers jours, des rassemblements et des manifestations pro-palestiniennes se sont déroulés dans plusieurs villes françaises en soutien à la nation et à la cause palestinienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle prise de position, plutôt sur ce nouveau discours de la diplomatie française envers la question palestinienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'ambassadeur de France en Israël a été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères à la suite de remarques jugées choquantes du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, sur un risque d'apartheid dans la région. Durant cet entretien à Rots, qui a été confirmé par une source diplomatique française, le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a indiqué à l'ambassadeur Eric Danone que les propos du ministre français étaient inacceptables, sans fondement et déconnectés de la réalité. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait fustigé ces propos le 26 mai lors de la cérémonie de commémoration, exprimant sa vive protestation auprès du gouvernement français. Le ministre français a déclaré qu'Israël pourrait devenir un état d'apartheid, une affirmation éhontée, fausse et sans fondement, avait déclaré le premier ministre israélien. Nous n'accepterons aucune leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question, avait-il prévenu. Mais faut-il croire à cette querelle France-Israël? Et ce alors qu'il y a peu, le président français avait annoncé son intention de changer la loi en faveur d'Israël. Saisie d'un recours, la Cour de cassation avait confirmé le 14 avril l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, meurtrier de Sarah Halimi, estimant que la loi ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Il ne faut également pas oublier les manifestations grandioses des Français en soutien au peuple palestinien durant ces derniers jours, où les manifestants scandaient des slogans tels que « La Palestine survivra »,« La Palestine gagnera », »,« Israël assassin, Macron complice » et « Nous sommes tous des Palestiniens ». La France, amie proche d'Israël, est-elle prête à tourner le dos au régime sioniste.
Retour au plateau de l'émission des débats. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre, et depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Vous retrouvez toujours un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour surtout à mon collègue, Monsieur Hugon.
Monsieur Michel, on connaît toute la force du terme apartheid. En général, il est utilisé par les opposants les plus virulents à la politique israélienne contre les Palestiniens. Mais son usage dans la bouche d'un membre du gouvernement français semble inédit. En d'autres termes, il s'agit d'une première, en effet, pour la diplomatie française. Pourquoi ?
Écoutez, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il y a une grande part de comédie et de posture. Vous savez, le principe de Macron et de son gouvernement, c'est d'occuper l'espace médiatique. Il arrive certains jours qu'on parle plus de la France que des États-Unis, alors que Paris, c'est une petite puissance sur le déclin géopolitique. Tous les jours, Macron lui-même, ou ses ministres, l'un ou l'autre, tiennent des propos disruptifs. Le but, c'est de créer du buzz, du scandale. On peut parler de posture. Vous savez qu'en propagande, il y a un principe qu'on appelle le principe du docteur Goebbels. C'était le ministre de la propagande du Troisième Reich. Et dans un livre en 1930, il a expliqué, peu importe que l'on parle en bien ou en mal de vous, pourvu que l'on en parle, c'est ce que Macron démontre tous les jours. Dès lors, je ne crois pas du tout à un tournant de la politique ou quoi que ce soit. Ça fait 60 ans que la France est derrière Israël. Dans les années 60, elle a équipé Israël de sa bombe atomique. Depuis, Israël, c'est une puissance atomique occulte qui menace tout le Proche-Orient. Voilà ce qu'il faut retenir. Lors des négociations de Genève, on disait que le ministre des Affaires étrangères, Fabius, c'était en fait le représentant d'Israël à la table de négociation. Les choses n'ont pas changé. Encore récemment, Netanyahou remerciait Macron pour son soutien. On a un peu l'impression que c'était usage électoral. Vous savez que Macron donne beaucoup de gages actuellement à l'électorat d'origine immigrée et arabe. Je pense que ça fait partie de la posture et de la tactique adoptée.
Merci pour ces précisions. Monsieur Michel, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Monsieur Hugon. Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre depuis Paris. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Mais merci à vous, bonjour à tous vos auditeurs et à Luc Michel, bien sûr.
Et pour vous, que représente, Monsieur Hugon, ce changement de discours du chef de la diplomatie française? Là, il s'agit d'une opération propagandiste, d'une opération de rattrapage à visée électorale dans le but de séduire des milieux particuliers?
Oui, alors, Michel a tout à fait raison quand il dit qu'il ne verra pas vraiment de changement dans la politique française envers le problème israélo-palestinien. Je suis un peu de cet avis à une petite nuance près. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les choses, malgré tout, sont dans l'obligation de changer. Alors si, bien sûr, les politiciens français changent de cette politique vis-à-vis d'Israël, ce n'est pas du tout pour faire plaisir aux Palestiniens, hein, c'est seulement parce qu'ils n'auront pas le choix, puisqu'aujourd'hui, il ne sera plus possible de cacher les crimes israéliens, comme ça a été le cas depuis 60 ans. Donc il est clair qu'on assistera avec la nouvelle génération d'électeurs en France, on assistera, je pense, à une modification de la politique étrangère envers Israël. De toute façon, moi je pense sincèrement qu'Israël, si Israël ne change pas leur politique étrangère, dans un temps, Israël n'existera plus. Puisque les pays occidentaux, comme les États-Unis, la France et l'Angleterre et bien d'autres, sont en faillite financière, ont une économie qui est désastreuse et nous n'aurons plus les moyens d'intervenir financièrement pour soutenir l'Ukraine. Israël dans sa politique colonialiste. Donc il est clair qu'on assistera dans les 15 ans à de très grands changements, non seulement en Israël, mais également au sein de la société française, européenne et occidentale plus généralement. Mais on ne pourra pas continuer de soutenir un pays comme Israël qui pratique cette politique un peu de terre brûlée vis-à-vis des Palestiniens. On ne pourra pas cautionner les assassinats et les bombardements israéliens en territoire palestinien. Donc il est nécessaire de trouver, sur un plan diplomatique bien sûr, une solution de façon à ce que les Palestiniens puissent avoir un État à eux, un État indépendant, et qu'il n'y ait plus cette ingérence israélienne comme c'est le cas depuis 60 ans.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Hugon. Monsieur Michel, le rapport des forces a changé, a complètement changé dans la région. Les équations ont changé dans la région du Moyen-Orient, notamment dans le conflit entre la force d'occupation israélienne et l'axe de la résistance. Les récents affrontements l'ont bien démontré. Ceci étant dit, dans quelle mesure ce changement des rapports de forces, ce changement d'équation pourrait avoir un impact sur, en effet, le changement de la politique des pays européens, en l'occurrence de la France, envers la question palestinienne? Et si votre réponse est affirmative, alors quel changement pourrait s'introduire dans la politique étrangère française?
Écoutez, il y a tout d'abord eu un grand tournant géopolitique qui est né de la guerre de Syrie. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'aux années, on peut dire 2018, la Russie avait une neutralité bienveillante vis-à-vis d'Israël. Ce n'était plus comme au temps de l'Union soviétique le soutien à la cause arabe, mais la guerre de Syrie a changé tout ça. Il y a le rapprochement entre Moscou et Téhéran, il y a un axe stratégique tirano-russe actuellement. Les Israéliens ont tenté toutes les opérations médiatiques pour tenter de saboter ce rapprochement, ça n'a pas marché. La presse israélienne elle-même dit qu'aujourd'hui, Poutine, c'est l'arbitre du Proche-Orient, et les Russes même disent qu'il est le tsar du Proche-Orient. Il s'est rapproché de l'axe de la résistance, et il n'y a plus du tout de neutralité. Au contraire, comme l'Union soviétique dans les années 1970-1980, la Russie aujourd'hui, elle a assuré à nouveau la parité stratégique entre l'axe de la résistance et donc Israël. Ça a induit une série de changements. D'une part, bien entendu, un affaiblissement stratégique d'Israël et paradoxalement, mais ce n'est peut-être pas un paradoxe, un renforcement de l'extrémisme au sein d'Israël. Depuis les années 30, il existait un courant qu'on appelait le sionisme révisionniste. C'était en fait le fascisme sioniste du leader Jabotinsky, qui est un leader israélien d'origine polonaise. C'est l'ancêtre idéologique du Likoud, de Netanyahou, de Sharon et compagnie. Encore actuellement, Netanyahou tient ses métiers derrière d'immenses portraits de Jabotinsky. Jabotinsky, c'est l'homme de la création des murailles d'acier d'Israël. C'est-à-dire que Israël doit exister et se développer par son armée. Et c'est lui qui a inventé le slogan du grand Israël, du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire en annexant non seulement toute la Palestine, mais une partie de l'Égypte et jusque l'Euphrate, donc une partie de la Syrie et de l'Irak. C'est un programme complètement paranoïaque. Plus le régime israélien est affaibli, plus il se lance dans ce radicalisme. Il est bien certain que l'Europe est gênée de cela. Elle a des communautés immigrées sur son sol, la communauté turque en Allemagne, la communauté d'origine marocaine en Belgique, la communauté d'origine algérienne en France, les communautés musulmanes qui sont importantes en Grande-Bretagne. Il faut donner des gages électoraux à tous ces gens-là. La solution donc pour la diplomatie européenne, c'est la solution des deux États, c'est-à-dire qu'on aboutisse enfin à un État palestinien. Mais ça ne veut pas dire que les politiciens européens sont subitement devenus des ennemis d'Israël ou des amis de la cause arabe. C'est simplement un réalisme. Et ce qui est inquiétant, à mon avis, c'est qu'il est à motivation purement électoraliste, interne. Mais la même chose, d'ailleurs, a existé aux États-Unis dans les années Obama.
Merci encore, M. Michel. M. Hugon, face à cet affaiblissement stratégique de l'entité israélienne, face, bien sûr, eu égard au renforcement de l'axe de la résistance et au niveau international, ce vaste mouvement de solidarité en faveur de la cause palestinienne. Alors, quelles sont les marges de manœuvre des pays occidentaux, des pays européens, de la France, qui ont, au cours des dernières décennies, malheureusement, délibérément fermé les yeux sur les crimes israéliens?
Oui, eh bien, la marge de manœuvre, elle est malheureusement étroite. Si la France et le monde occidental veulent garder de bonnes relations avec Israël, mais je crois que la véritable équation ne va pas se jouer de cette façon. Ça va être la crise économique et l'effondrement économique que nous allons connaître dans les années qui viennent, qui va modifier par obligation la politique occidentale par rapport à Israël. Donc ça, par contre, c'est une véritable chance pour la Palestine, car on sait très bien que la solution, c'est la solution des deux États. Donc il faudra obligatoirement y passer. Ce que je trouve assez déplorable de la part des dirigeants israéliens, c'est de ne pas vouloir voir les réalités en face. Alors, il est clair, bien sûr, qu'il y a bien sûr des dessins de stratégie des élections. Ça, il est clair que les responsables politiques israéliens doivent contenter un petit peu tout le monde, et c'est malheureusement pas une véritable solution politique. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il faudra passer par une étape qui sera douloureuse pour un grand nombre d'Israéliens. C'est l'abandon d'un certain nombre d'avantages qu'ils ont depuis 60 ans, en fait. Donc, et la cohabitation des deux peuples dans un même État, on voit bien que c'est une solution qui n'est pas pérenne et qui ne fonctionnera pas. Donc, il faudra bien qu'Israël se... Si Israël veut perdurer dans le temps, il faudra qu'Israël fasse un grand pas en avant afin d'apporter enfin la paix dans cette région depuis 60 ans. Alors il est clair qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on voit encore un grand nombre de dirigeants israéliens faire du clientélisme envers leur électorat pour vouloir faire croire encore à leur population qu'ils peuvent tenir encore cette situation très longtemps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont beaucoup plus évolués, ont des médias qui leur montrent la vérité, qui leur montrent un certain nombre de documentaires, de reportages sur la vie en Palestine. Et plus les choses vont d'avant, et moins les Israéliens seront légitimes dans leur politique. Donc aujourd'hui, et dans les 20 ans qui viennent, soit les Israéliens s'adaptent à cette nouvelle norme, soit Israël disparaîtra. C'est une obligation et ce sera historique dans le sens où ils n'auront plus la possibilité de faire autrement. Et ça, c'est une réalité. Et s'ils ne se collent pas à cette réalité, je prévois dans ce cas-là beaucoup, beaucoup de tristesse et de souffrance pour les Israéliens qui ne pourront plus maintenir toutes ces lois et qui sont contre nature et qui sont contre la paix dans la région.
Merci encore, M. Hugon. M. Michel, quelle pourrait être l'étape suivante à l'intérieur de la Palestine occupée d'Israël au niveau de l'opinion publique mondiale et européenne et surtout dans le discours des pays occidentaux envers la question palestinienne?
Écoutez, moi je ne partage pas l'optimisme de M. Hugon. Je pense comme lui que Israël n'a pas d'avenir, mais je ne pense pas qu'on va voir les choses changer aussi rapidement. Il y a l'opinion publique mondiale qui est en train de basculer, mais elle est en contradiction totale avec les régimes pro-israéliens et occidentaux. Maintenant, il faut savoir que la géopolitique ne va pas dans le sens des Palestiniens. avec l'invasion de deux blocs militaires, et le bloc américain occidental est en train de se déplacer. Il se réorganise les trois OTAN, l'OTAN classique qui existe en Europe occidentale, l'OTAN du Pacifique, le Quad qui existe aux frontières de la Chine, et enfin ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient, c'est-à-dire le nouvel axe entre Israël et les Émirats Arabes. Il a été défini par ce que Trump appelait le New Deal, et on sait que Biden, loin de renoncer au New Deal, marche dans les pas de Donald Trump dans ce domaine-là. Israël est actuellement en train de se faire intégrer au dispositif militaire de l'OTAN face à la Russie, à l'Iran et à la Chine, et en particulier en Méditerranée, la politique israélienne doit se trouver de facto arrivée, attachée à la politique occidentale et à la présence en particulier la dispute qui se passe actuellement, la confrontation entre les Russes et la dixième flotte américaine pour le contrôle de la Méditerranée orientale et occidentale. Ceci de l'aveu même d'ailleurs des Américains de l'amiral de troisième pilon qui est le commandant en chef des marines américaines en Afrique et en Europe. À partir de ce moment-là, moi, je crois plutôt à une radicalisation et tout le reste des explications. Vous savez qu'officiellement, vous avez l'exemple avec votre pays, les Européens, Macron, notamment le Lyon, qui disent qu'il faut retirer aux accords de Genève, mais dans la réalité, ils soutiennent toute la politique de confrontation américaine, derrière laquelle on trouve les lobbies pro-israéliens, qui est que les gens doivent renoncer à son programme politique pour voir les sanctions du public. Je ne crois donc pas à la solution. Maintenant, ce que dit M. Hugon, ça correspondait à un débat des années 80, c'est-à-dire que les historiens israéliens avaient entamé une réflexion. Vous savez qu'entre l'an 1000 et 1200, il y avait des États francs, donc des États de l'Europe, de Couchouria au sud des croisades. Il y avait des états à Tripoli, à Jérusalem notamment. Les Francs se sont maintenus pendant presque 270 ans dans ce qui est actuellement Israël et la Palestine. Ils ont fini par être rejetés à la mer. Les Israéliens, à l'époque des historiens israéliens, se disaient « Est-ce que cela va être notre sort ?» Ce débat, malheureusement, il a complètement été étouffé, il a complètement été assoumi par l'arrivée au pouvoir et la licoutisation non seulement de la politique israélienne, mais des lobbies pro-israéliens. Dans les années 60, 70, 80, il y avait des composantes des communautés juives aux États-Unis ou en France qui étaient raisonnables, qui notamment soutenaient des positions envers un second État palestinien. Aujourd'hui, les grands lobbies pro-israéliens, l'AIPAC aux États-Unis, le CRIF en France, ils sont entièrement liquidisés. J'étais la semaine précédente sur un site proche du CRIF en France. On évoquait une nouvelle bombe israélienne destinée à détruire les centrales nucléaires états-uniennes. Voilà le tour de ces médias.
Merci, M. Michel.
Pourquoi attendre une politique raisonnable de pareil Israël extrémiste? Malheureusement, même Netanyahou, qui est un extrémiste, est dépassé sous sa droite actuellement par plus radicaux que lui, notamment l'extrême droite religieuse israélienne, qui, en raison de la proportionnelle absolue aux élections israéliennes, rend ce pays un gouvernement qui fait de cet extrémiste la clé de tout nouveau gouvernement, de toute nouvelle majorité.
Alors, une toute dernière question à M. Hugon. M. Hugon, il nous reste 2 minutes. Très rapidement, s'il vous plaît. Donc, très vraisemblablement, les pays occidentaux européens vont, en effet, sous pression des lobbies pro-israéliens, vont continuer à soutenir, en effet, l'entité israélienne au détriment de leur souveraineté, de leur indépendance et des intérêts de leur nation.
Ah oui, ben ça, moi je suis convaincu que malgré les déclarations faites par Le Drian, je pense que ça ne changera pas grand-chose à la réelle politique menée par la France. Il est clair qu'on continuera de soutenir Israël pour un grand nombre de raisons. D'ailleurs, qui sont par ailleurs des mauvaises raisons et qui ne sont pas en phase avec la réalité de la situation. Vous savez, en Israël, en Palestine, vous avez un grand nombre de Palestiniens qui aujourd'hui font de très très bonnes études et ce sont des gens qui évoluent très très vite aujourd'hui et c'est une composante qu'Israël ne prend pas du tout en compte. Et c'est quelque chose qui va leur coûter extrêmement cher dans les années qui viennent. Il faut savoir que le monde change, évolue très vite, et Israël a beaucoup de retard à ce niveau-là. Et si Israël ne change pas cette politique, on arrivera, et on le verra, la fin d'Israël. Ça, j'en suis absolument convaincu. Il faut bien savoir que malgré toutes les armes que peut mettre au point Israël, vous savez, les Palestiniens sont aussi capables de mettre au point des armes biologiques, notamment des armes chimiques, ce qui va totalement changer la donne, puisque contre un air pollué par des virus ou des bactéries, toutes les armes, aussi puissantes qu'elles soient, n'ont plus aucun effet. Et ce sont des armes qui peuvent être mises au point avec des budgets et des moyens financiers très limités, sans bénéficier d'infrastructures importantes. Donc c'est une composante qu'Israël devrait prendre en charge, car pousser les gens au désespoir, c'est pousser les gens à des situations extrêmement violentes et extrémistes.
Philippe Hugon, analyste politique depuis Paris, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Les élections en Iran ne devraient pas être le théâtre d'une lutte de pouvoir comme aux États-Unis en Europe, a déclaré jeudi l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, lors d'une audience accordée aux députés du Parlement. Le guide suprême de la révolution islamique, tout en soutenant fermement la procédure légale du Conseil des gardiens de la Constitution, a considéré la présence de gestionnaires forts et compétents pour résoudre les principaux problèmes du peuple comme un facteur d'augmentation du taux de participation du peuple iranien aux élections présidentielles. Il a conseillé aux candidats de ne pas suivre l'exemple des débats électoraux américains, européens et d'adhérer à l'éthique islamique dans les compétitions électorales. Voici un extrait du discours de l'honorable Ayatollah Khamenei. Mon premier conseil aux candidats est de ne pas utiliser les élections comme une scène de lutte de pouvoir. Ne regardez pas ce qui est au courant dans la présidentielle américaine et certains pays européens, source d'infamie pour eux. L'arène électorale est celle de compétition, de rendre des services aux gens. Mon deuxième conseil est que les slogans irréalistes des candidats trompent le peuple et doivent être évités. Les normes éthiques doivent être strictement respectées lors des compétitions électorales. Si c'est le cas, ils imprègnent la société et les gens apprennent et respectent des normes éthiques. Je tiens à remercier ceux qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Beaucoup d'eux, certainement, sont entrés dans la scène par sens de responsabilité. Nous devons également remercier ceux qui n'ont pas été reconnus comme qualifiés par le Conseil des gardiens de la Constitution et qui ont traité cette question avec politesse. Certains ont même encouragé les gens à voter. C'était une attitude très appropriée qui attire la satisfaction de Dieu. Concernant le taux de participation, la plupart des gens ne cherchent pas un nom ou un parti, mais cherchent à voir qui peut résoudre les problèmes du pays grâce à une gestion solide et efficace. Dans ce cas, il y aura une participation massive par la volonté et la grâce de Dieu, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a prononcé ce mardi 25 mai un discours à l'occasion du jour anniversaire de la libération du sud du Liban. Le 25 mai 2021, cela fait 21 ans que l'entité sioniste a été expulsée du sud du Liban. Un anniversaire qui est célébré cette année dans un contexte totalement singulier. La Palestine vient de remporter une franche victoire militaire au bout de 12 jours d'une bataille où les missiles de la résistance ont mis au pas l'armée israélienne. En effet, la riposte de la résistance palestinienne au régime occupant et à ses exactions à Sheikh Jarrah a été décisive et historique même. Or, certains pays arabes ont refusé comme toujours de prendre parti et de s'arranger aux côtés de la Palestine comme il faut, et ce, en dépit de tout ce qui s'y passe. Ces régimes ont même cherché à redorer le blason d'Israël, mais Gaza lui a pris de court, ami et ennemi, en mettant à exécution sa menace de riposte, a déclaré Seyyed Hassan Nasrallah, et d'ajouter en effet que Qods fasse son entrée dans le cercle des cibles favorites de menaces et d'attaques d'Israël. Cela a poussé le commandant de la résistance palestinienne à opter pour cette prise de position historique. Cette récente bataille n'a eu pour motif que la bêtise de l'ennemi sioniste et surtout le fait qu'il a sous-estimé la résistance et a mal calculé sa réaction. L'une des conséquences de l'épée de Qods aura été l'engagement total et entier de Gaza dans l'équation de la Palestine. Et c'est là un acquis et historique. Idem, cette capacité nouvelle de Gaza à tenir les délais de ses tirs de missiles, qualitativement, quantitativement et en termes de portée, les missiles de Gaza ont été différents. Quand un sioniste ne se sentira pas en sécurité en Palestine, il la quittera et c'est le moins qu'il est prêt à faire. L'épée de Qods a paralysé la donne militaire en Israël et en termes d'acquis militaires, c'est sans précédent, a martelé le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah. À la prochaine guerre, des centaines de missiles en 1 minute et des missiles de 200 km de portée, a déclaré le chef du mouvement de la résistance islamique de Palestine, Hamas, dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré que la récente guerre de Gaza n'a point affaibli la résistance palestinienne. Il a déclaré aux journalistes que les Palestiniens de la ville occupée de Qods, de la Cisjordanie et des territoires occupés en 1948, ainsi que la diaspora, étaient tous descendus dans la rue de manière sans précédent pour soutenir la résistance, et il les en a tous remerciés. Dans une autre partie de ses propos, le commandant du Hamas à Gaza a évoqué la puissance balistique de la résistance palestinienne. « Nous avons la puissance de tirer chaque minute des centaines de missiles et de roquettes d'une portée de 100 à 200 km sur des cibles ennemies et aux dernières heures de ce récent conflit, nous étions prêts à tirer 300 missiles sur Tel Aviv », a déclaré le commandant du mouvement de la résistance islamique de la Palestine à Gaza. Il a ajouté que la résistance disposait de moins de 10 000 hommes dans les territoires occupés à Qods, qui seraient prêts à tout moment à mener des opérations anti-israéliennes en réaction à la moindre exaction contre la mosquée Al-Aqsa. Selon Yahya Sinwar, ce conflit était une défaite totale pour le renseignement israélien. Contrairement aux prétentions de l'ennemi, nous avons encore plus de 500 km de tunnels à Gaza et moins de 5% de nos tunnels ont été endommagés dans ce conflit, a-t-il déclaré. Il a souligné que les forces armées israéliennes n'ont pas réussi à assassiner un seul commandant de la résistance à Gaza et ils s'en sont pris aux habitants civils de Gaza, ont détruit les maisons et les infrastructures et massacré les femmes et les enfants. Il a remercié ensuite la République islamique d'Iran pour son soutien politique, financier et militaire aux forces de la résistance. Yahya Sinwar a affirmé que la puissance militaire de la résistance n'a pas été affaiblie. Selon lui, 57 combattants des brigades Qassam et 22 combattants des brigades Qods sont tombés en martyrs pendant le combat. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre, a affirmé la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme en soulignant qu'elle n'avait pas reçu de preuves que des habitants visés étaient utilisés à des fins militaires. S'il s'avère que l'impact sur les civils et les objets civils est indiscriminé et disproportionné, cette attaque peut constituer un crime de guerre, a déclaré Michelle Bachelet à l'ouverture d'une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il s'agit notamment de bâtiments gouvernementaux, de maisons et d'immeubles résidentiels d'organisations humanitaires internationales, d'installations médicales, de bureaux de médias et de routes permettant aux civils d'accéder à des services essentiels tels que les hôpitaux, a-t-elle poursuivi, et a relevé la haute commissaire, malgré les affirmations d'Israël selon lesquelles nombre de ces bâtiments accueillaient des troupes armées ou étaient utilisés à des fins militaires. Nous n'avons pas vu de preuves à cet égard. Bachelet a demandé aux autorités israéliennes de mettre immédiatement un terme au processus d'expulsion de familles palestiniennes conformément aux obligations d'Israël en vertu du droit international. Eh bien, chers amis, c'est touché à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.